Au milieu des années 1990, une bande de braqueurs sème la terreur à travers les États-Unis. Les voleurs échappent à la police grâce à leur mode opératoire soigneusement minuté. Ils s'emparent de centaines de milliers de dollars, laissant chaque fois une bombe derrière eux pour terroriser leurs victimes. Le FBI doit arrêter les bandits avant qu'un de ces hold-up ne tourne au carnage. Vous écoutez les dossiers du FBI, alerte à la bombe. Première partie.
En 1994, les habitants d'Ames en Iowa, une petite ville universitaire, avaient une vie paisible. De nombreuses personnes avaient été amenées à s'installer à Ames en raison du faible taux de criminalité de cette localité. À 10h30, le 25 janvier, deux hommes firent irruption dans une banque. Ils portaient des cagoules et tenaient en main des pistolets semi-automatiques. Ils forcèrent tout le monde à se coucher au sol. Une caissière déclencha le système d'alarme silencieux à leur insu. C'est le bureau du FBI de Des Moines qui fut avisé du vol en cours. Cette agence est responsable des crimes mettant en jeu les sommes d'argent assurées par le gouvernement fédéral. Les agents partirent sur le champ, mais ils étaient à 50 km de la banque. Les voleurs vidaient rapidement les tiroirs-caisses. L'un d'eux sortit alors ce qui semble être une bombe. Il déclara à la ronde que si quelqu'un bougeait au cours des 5 prochaines minutes, la bombe exploserait. Les employés et les clients de la banque sortirent de l'immeuble dès qu'ils le purent. La police interdit l'accès à la banque pendant que des experts en explosifs travaillaient à l'intérieur. Ceux-ci constatèrent que l'engin explosif n'était en fait qu'une manœuvre de diversion. Il s'agissait de deux fusées éclairantes retenues par du ruban adhésif. Les employés racontèrent comment l'un des hommes avait plongé par-dessus le comptoir pour s'emparer de l'argent. Les hommes avaient volé plusieurs milliers de dollars et toute l'opération du début à la fin n'avait pas pris 5 minutes. Les agents interrogèrent les témoins. Ceux-ci déclarèrent que les voleurs se parlaient parfois en espagnol. Grâce à la caméra de surveillance, on put disposer de photos du vol. Le visage des assaillants était dissimulé par des cagoules. Mais au moins, les enquêteurs disposaient d'images de leur déguisement et de leurs armes, des pistolets semi-automatiques de 9 mm. Comme les voleurs portaient tous des gants, ils n'avaient laissé aucune empreinte digitale. À l'aide de rubans électrostatiques, les experts recueillirent l'empreinte d'une chaussure sur le comptoir. En raison des précautions prises par les bandits, on ne pouvait les identifier. L'agent spécial Ken Moore, du bureau du FBI de Des Moines en Iowa, vit tout de suite qu'il s'agissait là du travail de professionnels.
Aujourd'hui, la plupart des voleurs de banque entrent discrètement. Ils s'adressent à une caissière et effectuent le vol aussi silencieusement que possible. Mais ces individus étaient entrés avec fracas et ils avaient agi rapidement.
L'agent Moore souhaitait arrêter des suspects le plus vite possible, mais le FBI ne disposait d'aucun indice valable sur l'identité des auteurs de ce crime. Quelques semaines plus tard, le bureau de Des Moines reçut un communiqué. On y faisait état d'un vol de banque commis le 15 février à Davenport. Les agents contactèrent le bureau de Davenport pour voir si ce vol pouvait avoir été apparenté à celui de Ames. On leur décrivit les deux hommes portant des cagoules et des imperméables noirs qui avaient fait irruption dans une banque de Davenport. Les bandits avaient échangé quelques mots en espagnol, comme ceux de Des Moines. Ils avaient également sauté par-dessus le comptoir pour vider les tiroirs-caisses. Mais il y avait une différence entre les deux affaires. Cette fois, les voleurs avaient laissé une vraie bombe, un tube explosif. Heureusement, il n'y avait aucun détonateur. Désarmer cette bombe ralentit toutefois l'enquête.
Okay. See you later. After that.
Au cours des quatre mois suivants, les villes de Cincinnati, Green Bay et Kansas City furent le théâtre de crimes semblables.
Il y avait toujours plusieurs ressemblances entre les vols. Le groupe avait choisi deux régions pour perpétrer ces vols, le Midwest et l'Ohio. On essayait de trouver un lien logique entre ces deux régions et de découvrir pourquoi ils s'y prenaient toujours de la même façon.
Les vols étaient systématiquement commis entre 10 et 11 heures du matin, alors que les clients étaient moins nombreux. Chaque fois, les bandits prenaient la fuite moins de 5 minutes plus tard, laissant toujours une bombe inoffensive derrière eux. Leur terrain de manœuvre était si vaste que les agents ne pouvaient prévoir où ils frapperaient la prochaine fois. Le FBI devait trouver des indices pour se mettre sur la piste de suspects. Le 8 juin 1994, les bandits s'attaquèrent à une banque de Springdale en Ohio. Ils prirent la fuite avec 11 000 dollars. Un témoin les vit quitter les lieux à bord d'une Chevrolet brune. Le 17 juin, un gardien de sécurité trouva étrange qu'une voiture ne quitte pas le stationnement de son entreprise pendant toute une semaine. Il vit à l'intérieur un balayeur radar. Il remarqua également un téléavertisseur et un billet de 20 dollars taché. Un policier de Springdale se rendit sur place pour effectuer les vérifications d'usage. Il commença par chercher le nom du propriétaire du véhicule. Il força la porte du coffre à gants. Une grenade en tomba. On découvrit par la suite qu'il s'agissait d'un explosif inoffensif. La présence de cette grenade laissait toutefois présumer que la voiture était reliée au voleur de banque. Par le numéro de série du véhicule, les agents retrouvèrent le concessionnaire qui l'avait vendu. Ils interrogèrent le vendeur qui avait fait la transaction. Elle avait été vendue moins de 2 semaines plus tôt, mais malheureusement, le vendeur fut incapable de fournir une description de l'acheteur. Après toutes ces impasses, la pression se faisait plus forte sur les enquêteurs.
Nous étions déçus parce que ces vols devenaient de plus en plus violents. Les voleurs étaient de plus en plus audacieux. Ils brandissaient leurs armes, ils effrayaient les employés, ils faisaient peur aussi aux clients et laissaient leurs fausses bombes. Nous étions donc très déçus et très préoccupés.
Le 27 décembre, les bandits terminèrent l'année en commettant leur 12e vol en autant de mois. Ils s'attaquèrent à une banque près de Saint-Louis. Cette fois, ils étaient 4.
Ça nous a inquiétés parce qu'à 4, ils pouvaient s'emparer littéralement de la banque et entrer certainement dans la chambre forte. À 4, on peut faire un tort considérable.
Lors du vol de Saint-Louis, des passants aperçurent les voleurs mettre leur cagoule avant d'entrer dans l'immeuble. Une caissière eut le temps de voir le visage de l'un d'eux à l'intérieur de la banque. Ces témoins aidèrent des dessinateurs du FBI à dresser le portrait des suspects. Le FBI distribua ses croquis aux autres services de police ainsi qu'aux médias. On espérait que quelqu'un se manifesterait à la police. Suite à la diffusion de ces portraits au bulletin de nouvelles, le bureau du FBI reçut des centaines d'appels. Les agents suivirent toutes ces pistes, mais ils n'obtinrent rien de valable. Les voleurs contactèrent eux aussi les médias. Ils envoyèrent des lettres et des caricatures aux journaux. Ils tournaient les agents fédéraux en ridicule en se moquant de leurs vaines tentatives pour les capturer. Dans une de ces lettres en particulier, le groupe se surnomma « les voleurs de banque du Midwest ». Les bandits laissèrent un autre message aux autorités dans l'une des voitures qui leur avait permis de s'enfuir. Un enquêteur fouillait un véhicule ayant servi lors du vol de la banque près de Saint-Louis quand il trouva sur le siège avant une coupure de journal à propos de Timothy McVeigh, l'auteur de l'attentat à la bombe d'Oklahoma City. En moins de 2 ans, les bandits s'étaient attaqués à pas moins de 15 banques partout dans le Midwest. À la fin du mois d'août 1995, les agents du FBI de 7 États américains et ceux du quartier général se rencontrèrent à Louisville, au Kentucky. Tous les bureaux travailleraient désormais de concert pour identifier et arrêter les suspects. Toutes les informations et les pistes transiteraient par un seul bureau avant d'être relayées aux autres. L'agent spécial Moore de Des Moines était le pivot de l'enquête.
Cette rencontre a eu pour effet que tous les agents sont retournés chez eux pour examiner les dossiers et voir si quelque chose ne leur aurait pas échappé ou s'ils ne contenaient pas une piste qui pourrait nous aider à identifier les voleurs.
L'agent spécial et superviseur David Welker tomba alors sur une information fournie par téléphone à son bureau de Cincinnati après un vol en juin 1994. L'informateur avait donné le nom des deux chefs des voleurs de banque du Midwest, Peter Langen et Richard Guthrie.
Nous avons alors constaté que ces individus avaient des antécédents judiciaires. En remontant cette piste, on a appris qu'ils avaient été arrêtés en Géorgie pour le vol d'une pizzeria. Nous avons découvert que les services secrets américains avaient enquêté sur Langen suite à des menaces faites au président du pays.
Au moment de l'arrestation, la police avait saisi des fusils semi-automatiques et des grenades, des armes semblables à celles qu'utilisaient les voleurs de banque. Le suspect avait été incarcéré pendant une courte période avant d'être remis en liberté. L'agent Welker parvint à obtenir des photos des deux hommes. Il les compara ensuite aux portraits dressés après les vols de Saint-Louis.
Ils se ressemblaient tellement que c'en était troublant. On aurait presque dit que le dessinateur s'était servi de ces photos pour faire les portraits.
On connaissait donc maintenant le nom des voleurs. Les agents du FBI à leur poursuite allaient bientôt découvrir qu'ils avaient des dessins beaucoup plus noirs que de simples vols de banque. En 1995, le FBI était à la recherche de voleurs de banque du Midwest américain. La veille de l'action de grâce, les 4 hommes s'attaquèrent à une autre banque de Saint-Louis. C'était leur 21e vol. Ils portaient tous des casquettes de l'ATF, comme en portent les agents fédéraux du bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu. Ils laissèrent comme d'habitude un tube explosif derrière eux. Aucune de leurs bombes n'avait explosé. Elles n'avaient pas de détonateur, ou alors c'était de fausses bombes. Maintenant, les agents savaient comment les désamorcer eux-mêmes. Il n'était plus question de laisser ce subterfuge faire perdre du temps aux enquêteurs. L'agent spécial et superviseur David Welker du bureau de Cincinnati connaissait le nom de 2 des voleurs. Mais Peter Langen et Richard Guthrie vivaient dans la clandestinité. Ils n'apparaissaient que lorsqu'ils attaquaient une banque.
À l'évidence, on avait identifié les vrais voleurs. On essayait d'obtenir le plus de renseignements possible à leur sujet et savoir qui ils fréquentaient. Mais l'aspect le plus intéressant pour nous, c'était qu'on avait enfin une piste à suivre.
Depuis le début de l'enquête, l'informateur qui avait fourni les noms des suspects avait quitté l'Ohio. L'agent spécial Ed Woods, du bureau du FBI à Cincinnati, retrouva sa trace en Géorgie où il vivait désormais avec sa nouvelle femme et leur enfant.
Cet individu avait déjà été un complice de Langen et de Guthrie, et il avait abandonné ce genre de vie pour repartir à zéro. Je crois qu'il était vraiment prêt à mettre ce passé derrière lui. Quand je l'ai interrogé, il a donc été très coopératif.
L'informateur avait rencontré Langen en 1991 lors d'un rassemblement pour la suprématie des Blancs. Ils avaient les mêmes croyances quant à la suprématie de leur race et méprisaient le gouvernement. Un an plus tard, Langen avait parlé de son intention de fonder l'armée de la République aryenne. Il voulait faire une révolution contre Washington et les agences fédérales comme le FBI et l'ATF. Langan s'inspirait ainsi d'un groupe de terroristes se faisant appeler « The Order ». Ce groupe avait financé ses projets racistes en s'accaparant de 4 millions de dollars par des hold-up de banques et de fourgons blindés. Ce soir-là, Langan avait présenté Guthrie comme étant son compatriote. Deux mois avant le premier vol de banque, ceux-ci avaient demandé à l'informateur s'il souhaitait devenir membre de leur armée. Celui-ci avait décliné leur offre. Il avait toutefois accepté de participer à leur activité.
Ce témoin nous a permis de connaître en détail leurs activités. Il nous a dit, par exemple, comment ils planifiaient méticuleusement les vols de banque. Et de plus, il nous a appris que leurs activités ne se limitaient pas à des vols et à des projets criminels, mais qu'également, elles s'inspiraient du racisme et prônaient la suprématie de la race blanche.
L'informateur avait aidé Langan à organiser le vol de la banque de Springdale en Ohio. Mais avant ce vol de juin 1994, l'informateur avait décidé de rompre ses liens avec le groupe de voleurs. Sa participation était assez importante pour qu'il soit accusé de complicité. Le FBI promit de laisser tomber les charges contre lui s'il collaborait avec les agents. On était fin prêt à capturer Langan et Guthrie.
Quand on a pu établir qu'ils avaient dissous d'autres organisations racistes pour former la leur, notre enquête est devenue encore plus complexe.
L'agent Welker croyait que ce n'était qu'une question de temps avant que les voleurs de banque du Midwest ne transforment leurs préjugés racistes en actes de violence. Le groupe refit surface à Cincinnati en s'attaquant à une autre banque en décembre 1995. Au cours de leur fuite, l'un d'eux se cogna sur une adolescente. Il lui réclama alors son sac à main, mais elle refusa. En entendant le bruit d'une sirène qui approchait, le voleur prit la fuite sans insister. Croyant que les bandits étaient toujours dans le secteur, l'agent Welker fit venir l'informateur à Cincinnati. À son arrivée, on lui demanda d'adhérer à nouveau au groupe raciste, ce qu'il accepta. Les agents lui dirent d'alerter le FBI par téléavertisseur dès qu'il aurait repris contact avec les suspects. Après plus d'une semaine, les agents n'avaient toujours pas de nouvelles de lui. La situation était exaspérante.
Il était là depuis une semaine et demie et il ne nous avait pas encore donné d'informations ni pris de rendez-vous avec nous pour nous rencontrer. Il n'avait pratiquement rien fait. J'étais très sceptique sur l'utilité de ce témoin pour nous. J'étais prêt à le renvoyer chez lui parce que je ne croyais pas qu'il nous aiderait.
À 2h30, dans la nuit du 17 janvier 1996, l'informateur contacta enfin le FBI par téléavertisseur. Les enquêteurs durent se lever et se rendre à un endroit convenu d'avance. L'informateur leur révéla alors qu'il avait retrouvé Guthrie. Il mangeait avec un ami lorsque celui-ci était arrivé sans s'annoncer. L'informateur avait menti sur les raisons de sa présence à Cincinnati et il avait discuté un peu avec lui. Guthrie l'avait alors invité à le raccompagner jusqu'à sa camionnette pour poursuivre la conversation seul à seul. Ils étaient assis dans le stationnement quand le suspect avait demandé à son ami de revenir au sein du groupe. Il lui avait ensuite montré un fusil d'assaut et un sac de projectiles capable de transpercer des gilets pare-balles. L'informateur put fournir une partie du numéro de la plaque d'immatriculation de la camionnette de Guthrie ainsi que la description du véhicule. Mais les agents doutaient toujours de lui.
J'ai demandé à l'agent Woods qu'il organise une réunion au bureau du FBI avec le témoin pour 16 heures le dimanche après-midi. Je ne voulais pas qu'il sache pourquoi il était convoqué, juste qu'il apprenne que je voulais le rencontrer. Puis, je me suis assuré de la présence de notre expert en détecteur de mensonges, car je voulais qu'on lui fasse subir le test pour m'assurer qu'il nous disait la vérité.
L'informateur accepta de se soumettre à l'examen. L'examinateur conclut que le jeune homme avait menti au cours du test. Mais celui-ci insista sur le fait qu'il avait dit la vérité. Pour le prouver, il appela l'ami avec lequel il avait mangé. Les agents purent entendre toute la conversation. Spontanément, l'ami lui demanda immédiatement comment les choses s'étaient passées avec Guthrie.
Il nous fallait alors prendre une décision. Il s'agissait de croire au résultat du détecteur de mensonges ou de croire que la conversation téléphonique était vraie. J'ai le sentiment qu'on a alors pris la bonne décision. On a cru que la conversation téléphonique était vraie. L'ami avait parlé de son propre chef.
L'informateur donna rendez-vous à Guthrie le lundi suivant à l'appartement de leur ami commun. Les agents du FBI constituèrent une équipe pour procéder à l'arrestation. Ils surveillèrent les lieux, prêts à mettre la main au collet du suspect quand il arriverait. L'informateur attendait dans l'appartement. Son ami ignorait qu'il s'agissait d'un coup monté. Guthrie avait promis de venir entre 16 et 17 heures. Mais quand 17 heures sonna, il n'était pas encore arrivé. L'informateur savait qu'il ne jouait pas que sa crédibilité. Il risquait que son entente avec le FBI soit rompue. Si les agents croyaient qu'il leur avait menti, il le ferait accuser de complicité dans les vols de banque. À 17h20, il n'y avait toujours aucun signe de Guthrie. Le suspect semblait ne pas vouloir venir. Dehors, l'équipe commençait à montrer des signes d'impatience. C'était Guthrie au bout du fil. Il déclara qu'ils pouvaient se rencontrer dans une pizzeria à proximité 30 minutes plus tard. L'informateur devait absolument en aviser les membres de l'équipe d'arrestation. Il déclara à son ami qu'il sortait pour acheter des cigarettes. Sous ce faux prétexte, il alerta les agents de l'appel de Guthrie. Ceux-ci informèrent l'unité SWAT du changement de programme. De nombreuses voitures prirent la direction de la pizzeria. Les agents ne pouvaient faire autrement que de se demander s'il s'agissait d'une manœuvre de diversion ou pas. En route, les voitures de police furent séparées à cause de la circulation. En passant devant le stationnement d'une épicerie, un agent aperçut Guthrie. Il fit demi-tour et mit en alerte les autres membres de l'équipe par radio. Guthrie monta alors à bord de sa camionnette et il démarra. L'agent le prit en filature, en espérant que le reste de l'équipe le rattraperait rapidement. Il était seul et suivait un suspect considéré dangereux. Mais il n'était pas question pour lui de laisser Richard Guthrie filer.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par David N. Burskin et Michael Martin. Il a été réalisé par John Kavanagh. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agasson. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.